Pauline Cucciello, Titania 4.0. Chapitre 5. Les bœufs carottes. Jean, dans son costume un peu raide, se sentait mal à l'aise. Titania lui avait fait prendre un cocktail de pilules pour calmer son anxiété, et devant ses tremblements, Mito lui avait même proposé de prendre sa place dans cette nouvelle mise en scène. Jean le savait, il ne possédait pas la grâce aérienne de ses deux amis, leur talent d'improvisation, leur légèreté. Les performances les amusaient, eux, ils y prenaient un plaisir manifeste. Quand ils rentraient d'un happening, ils ruisselaient l'un comme l'autre d'adrénaline et de dopamine, excités et radieux. Mito était pour ainsi dire un comédien professionnel, qui n'avait bien souvent dû sa survie qu'à ses talents d'acteur. Quant à Titania, elle avait changé de peau tant de fois qu'elle paraissait presque plus à l'aise dans la métamorphose que dans la permanence d'une identité. En cela, décidément, Jean n'était pas de leur espèce. Les simulations 3D lui avaient toujours donné la nausée, et les déguisements toujours paru vaguement effrayants. Mais envoyer Mito à sa place n'aurait eu aucun sens, et se dérober n'aurait fait qu'empirer les choses. Il fallait que ce soit lui cette fois, personne d'autre. C'est pourquoi il était là, savamment grimé à l'aide d'un onguent qui avait creusé quelques rides sur son visage et fait apparaître des taches sur sa peau. Titania avait pris les choses en main, avec la maestria un peu fébrile qu'elle mettait dans ses occasions et qui contrastait si douloureusement avec ses moments mélancoliques. Elle lui avait foncé les cheveux, les avait tirés en arrière. Pour rappeler Elliot Ness, avait-elle précisé. Elle lui avait aussi ajouté une moustache, façon Hercule Poirot. Le choix de la moustache avait pris au moins une heure. Jean s'était regardé longuement dans un miroir, de dos, de profil, de face. Il s'était concentré sur ce nouveau personnage. Il était un cadre de la police, chargé des affaires internes. Il traquait les mauvais sujets et les remettait dans le droit chemin. Il n'était pas populaire, n'avait aucun ami au travail, peut-être une femme à qui il ne parlait pas beaucoup, un chien qui l'accompagnait dans ses promenades silencieuses. Il était du genre taiseux, méticuleux, obstiné, laborieux. C'était un bon flic. En créant son personnage, il avait beaucoup pensé à sa mère. Lorsqu'il était plus jeune, il adorait se poster avec elle à une terrasse de café et regarder passer les gens. Il s'agissait alors de deviner pourquoi cette femme était pressée, pourquoi ce type aux canines de vampire parlait tout seul, ou ce que se disaient ces deux amoureux en pleine dispute. À ce petit jeu, sa mère était toujours la plus forte, mais il lui arrivait aussi d'inventer un détail croustillant qui la faisait rire. Bien sûr, sa fiction semblait un peu anachronique. Au XXIIe siècle, la police était pour ainsi dire corrompue à la base. Les incorruptibles avaient vécu. Mais, quelles que soient les règles du jeu, il y en a toujours pour les enfreindre, alors ça ne changeait pas grand-chose. Il avait eu un mal de chien à fixer un rendez-vous officiel avec Karine Dubreuil, l'officier qui avait été en charge de l'enquête sur sa mère, et très probablement responsable de sa mort subite. Il avait fallu hacker son RV et recopier la mise en page d'un message de la direction. Cela leur avait coûté cher, car les écumeurs ne travaillaient jamais pour rien. Mais le message avait été envoyé, en bonne et due forme, et reçu. Il n'y avait donc aucune raison pour que l'officier Dubreuil ne se présente pas à la convocation. Le problème, bien sûr, était qu'il n'avait pas pu avoir accès à son dossier. Si elle s'en était rendue compte, cela aurait compromis toute l'opération. Et puis, elle avait montré qu'elle pouvait être dangereuse. Il allait donc falloir jouer serré. « N'oublie pas que ce n'est pas toi qui dois parler, mais elle, » avait conseillé Mito. « Le silence passe toujours pour de la profondeur. N'aie pas peur d'en abuser. » Le lieu du rendez-vous avait également posé problème. Il était hors de question de la recevoir dans un vrai bureau des locaux de la police. Mito avait suggéré un lieu public, mais cela aurait semblé étrange. Un domicile personnel aurait paru encore moins réglementaire. Ils avaient donc opté, faute de mieux, pour un appartement vide auquel un courtisan de Titania leur avait donné accès. Il avait fallu ensuite créer le décor, en achetant d'abord un lot de parois modulables. La première réalisation fut un box étroit, avec le matériel de base, bureau, siège, écran, caméra de surveillance, drone. Jean avait tenu à le personnaliser un peu, avec des citations de Confucius défilant sur un écran numérique. « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. » Il choisit également une fenêtre hologramme, représentant une vue diurne du Chicago des années 20, et disposa bien en évidence sur le bureau la mue de serpent à la façon d'un presse-papier. Ensuite, à l'aide d'autres « box », on disposa des parois de manière à figurer un couloir, et on se mit à la recherche d'une bande-son suffisamment crédible pour suggérer l'existence d'une activité professionnelle soutenue ailleurs dans les locaux. Il était convenu que Titania accueillerait Dubreuil pour la conduire au bureau de Jean, pendant que Mito se tiendrait discrètement à l'arrière. Le rendez-vous avait été fixé à 17h. Depuis 16h30, tout était en place. Il avait fallu modifier plusieurs fois le volume de la bande-son, qui était assez convaincante, et Jean, nerveux, essayait tant bien que mal de se mettre dans la peau de son personnage, le commissaire Rancière. Il répétait mentalement les principaux traits de son caractère pour mieux s'en imprégner. Taciturne, obstiné, droit, solitaire. Il contempla la vue offerte depuis la fenêtre hologramme, le ciel bleu et froid, les immeubles de 4 à 7 étages portant des enseignes peintes, le logo familier de Coca-Cola sur le pignon d'en face. Au sol, le tramway, les hommes en borsalino, les femmes en chapeau-cloche, les voitures magnifiques, hautes sur roues, avec leurs longs capots et leurs phares ronds. Ces images d'un autre lieu, d'une autre époque, lui donnèrent confiance. Il ne s'agissait après tout que de jouer un rôle, comme dans une pièce de théâtre. Comment pouvait bien se sentir le commissaire Rancière avant de recevoir un officier suspect qu'il avait convoqué? Probablement un peu nerveux, lui aussi. Jean regarda le décor, Confucius, la sagesse orientale. Le commissaire Rancière, friand de maîtrise de soi, pourrait bien être adepte du yoga. Jean retira sa veste et réalisa une salutation au soleil. Cet exercice qu'il pratiquait depuis son enfance lorsqu'il se sentait anxieux lui apporta immédiatement un bien-être physique. Il enchaîna avec la posture de la montagne et celle de l'arbre. Et c'est ainsi, en pleine respiration profonde, qu'il fut surpris par l'intrusion de Titania. Elle s'était enlaidie autant que possible, portait une tenue très neutre et le visage nu. « Commissaire Rancière ?» demanda-t-elle une première fois. Jean, qui était concentré dans son exercice, ne l'entendit pas tout d'abord. « Commissaire Rancière ?» dit-elle plus fort. Cette fois, Jean fut rappelé à la réalité et quitta sa position. « Votre rendez-vous, commissaire, l'officier Dubreuil, elle est arrivée. »« Un peu en avance, non ?» demanda Jean. Il fut lui-même tout étonné par sa grosse voix, qui avait été rendue plus grave par un spray que Titania avait absolument tenu à lui pulvériser dans la gorge une heure auparavant. « Un peu, » acquiesça Titania. « Est-ce que je la fais rentrer ?»« Un instant. » Jean remit sa veste et eut à peine le temps de s'asseoir que l'officier Dubreuil entra. Jean se concentra alors pour se couler encore un peu plus avant dans son personnage. Il n'était plus Jean, le fils d'Élisabeth Corville, que l'officier Dubreuil avait appréhendé et qui était morte à la suite de cet interrogatoire. Il était le commissaire Rancière. Cet officier lui paraissait suspect, il avait des points à éclaircir avec elle. Il n'était pas là pour être aimable, ni pour raconter sa vie, mais pour la faire parler. Il commença par la dévisager d'une manière un peu grossière, qui contrastait avec les usages sociaux habituels. Dubreuil portait l'uniforme de la police, un âge apparent d'une 30aine d'années, une absence d'excentricité et une carrure athlétique. Mais de nombreux détails attiraient le regard. Son visage était assez juvénile, mais ses implants jugulaires et maxillaires, destinés à la rajeunir, s'affaissaient un peu. Ses bras étaient secs et nerveux, mais le dos de ses mains, passablement ridé. En un mot, elle ne dissimulait que partiellement son âge. « Asseyez-vous, » dit-il de sa voix grave. « Je suis un peu surprise par le lieu de la convocation. D'habitude, vous n'êtes pas ici pour me poser des questions, officier Dubreuil, » articula calmement Jean, « mais pour m'apporter certains éclaircissements. Puis-je savoir sur quoi ?» Jean fit une moue et compulsa un faux dossier derrière l'écran de son RV qu'elle ne pouvait pas voir. « Le silence passe toujours pour de la profondeur, » avait dit Mito. N'aie pas peur d'en abuser. Oui, mais il ne fallait pas non plus lui laisser le loisir de trop réfléchir aux bizarreries de la situation. Jean installa donc le drone en position stationnaire, à un point d'où il pouvait les filmer tous les deux, puis il commença l'entretien sans tarder. « À votre avis, officier Dubreuil, pour quelle raison vous ai-je convoqué ?»« Ma foi, je ne vous cache pas que je me le demande. » »« Allons, l'entretien s'engage mal, vous semblez sur la défensive. »« Pas du tout. » Il fit à nouveau mine de chercher une information dans le dossier. « Vous avez déjà de longues années de service derrière vous, on dirait. »« 47, commissaire. »« Eh bien, 47 ans de service, ça n'est pas rien, ça fait un sacré bout de chemin. »« Vous devez bien avoir une petite idée de la raison pour laquelle je vous ai convoqué aujourd'hui. » Dubreuil parut hésiter. « Non, vraiment, je ne vois pas. » Elle était plus coriace que prévu. Il aurait dû s'y attendre. « Alors prenons un autre chemin. Expliquez-moi les motivations qui vous ont poussé à vous engager dans cette brigade en particulier. » Dubreuil eut un soupir léger. Le terrain lui paraissait sans danger, et elle se détendit. « Il m'est venu au bout de 30 ans de carrière une certaine lassitude pour la forme que prenaient toujours les fins d'enquête. Le fait de déférer des gens à la justice n'est guère un moment gratifiant pour un policier, surtout lorsque la justice en question roule pour son propre compte. Vous pensez à une affaire en particulier ? Oh, plusieurs, mais la dernière m'a fait l'effet d'un déclic. J'avais monté un dossier en béton contre un trader qui détournait des fonds. Et devinez quoi ? La justice l'a relaxé. Pour quelle raison ? Pour les raisons que vous connaissez. Les entreprises qui commandent la police ne sont pas les mêmes que celles qui subventionnent la justice. Les détournements de fonds en gênent certains et en arrangent d'autres. Nous ne sommes que des pions dans ce jeu. Je vois. C'est pourquoi j'ai demandé ma mutation dans la seule brigade qui fonctionne différemment. Les opérations spéciales offrent cet avantage d'une résolution rapide. On enquête, on traque, on trouve et on élimine. Cela a un côté intellectuellement plus satisfaisant. Intellectuellement, oui, mais moralement. Dubreuil éclata de rire, et ce fut à cet instant précis que Jean remarqua qu'elle n'avait, sur le visage, le cou, les bras, aucun poil, ni cils, ni sourcils, ni duvet ou que ce soit. C'était ce qui lui donnait ce regard si étrange. « Vous pensez que je suis folle ?»« Je me demande simplement comment vous gérez l'aspect moral de votre engagement auprès de nos services. Vous parlez des éliminations, je les gère très bien. »« Oui, c'est ce que dit votre dossier. Pouvez-vous m'expliquer la manière dont vous procédez ?» Certains de mes collègues aiment jouer au chat et à la souris et font subir aux prévenus de véritables interrogatoires. Quand vous parlez d'interrogatoire, vous voulez dire avec pression physique ? Oui. Et vous ne le faites pas ? Non, jamais. Jean ressentit soudain une sorte de relâchement dans sa poitrine, presque une envie de pleurer. Sa mère avait certes été éliminée par cette femme froide, mais au moins, elle n'avait pas été torturée avant. Pourquoi ? Cela me paraît parfaitement inutile. Notre tâche n'est pas une mission d'information, comme on me l'a très clairement expliqué à mon entrée dans la brigade. Nous sommes chargés de supprimer les gêneurs, c'est tout. Pourquoi vos collègues se livrent-ils alors à cette procédure inutile ? Je vous l'ai dit, de manière irrationnelle, par plaisir sadique, j'imagine. Ce n'est pas mon cas. Soyez plus précise. Tout est dans le rapport. Officier Dubreuil, s'il suffisait de lire un rapport pour faire une enquête, nous gagnerions beaucoup en masse salariale. Vous ne croyez pas ? Soyez plus précise. Une fois que j'ai localisé et arrêté le prévenu, je lui fais ingérer du cyanure de potassium, la plupart du temps dilué dans un verre d'eau. Jean avait du mal à se maîtriser. Il imaginait sa mère, inquiète, peut-être un peu décoiffée, dans une salle d'attente, et le verre d'eau que l'officier lui tendait d'un air courtois. Les pulsations de son cœur s'accéléraient en imaginant la suite. Ses yeux se posèrent involontairement sur la mue de serpent, qui le rappela brutalement à sa mission présente. Il fallait qu'il change de peau. Qu'il abandonne la mue de Jean Corville. Il réussit à articuler. « Pouvez-vous m'en décrire les effets ?»« Rien de plus simple. Perte de conscience dans la minute, puis au bout de 3/4 d'heure, coma. Le décès intervient en 2 heures, parfois, au terme de quelques convulsions. » Jean eut besoin de revenir à un sujet plus neutre. « Vous n'avez jamais souffert de syndrome post-traumatique ? Pas de cauchemar, pas de remords ?»« Non. » Les yeux clairs, dépourvus de cils, fixaient le commissaire avec assurance. « Vous pensez donc être apte à ce service pour un temps indéfini ?»« En effet. »« Bien, revenons maintenant à ce qui nous occupe. » Dubreuil paraissait un peu plus en confiance. « Je suppose que vous voulez me parler de l'affaire Bronski. » Jean s'appliqua à ne rien laisser paraître. Cette affaire lui était parfaitement inconnue, mais il prit un air entendu. « Absolument. »« J'ai toujours pensé que cette affaire poserait problème, voyez-vous, depuis le début. » Comme vous le savez, Bronski était le gendre de l'un des directeurs commerciaux de Lyd, le géant de l'industrie du divertissement. C'est pourquoi j'ai été très surprise lorsqu'on m'a confié cette enquête. Continuez. Bronski menaçait visiblement de lancer l'alerte sur la dernière génération de RV produits par Lyd, et l'enquête était classée prioritaire. La curiosité de Jean était piquée. Quel défaut ou quel cheval de Troie pouvait donc contenir le dernier RV de chez Lyd ? Cette enquête, vous l'avez menée à son terme entièrement seule ? Oui, sur le terrain. J'ai éliminé Bronski à son domicile, dans les délais très brefs qu'on m'a impartis. Mais son épouse m'a vue et m'a prise en photo. Cruel dilemme, observa Jean, de manière neutre. Fallait-il l'éliminer elle aussi ou pas? Vous avez dû vous poser la question. Dubreuil paraissait légèrement agité à ce souvenir. Je n'étais pas mandaté pour cela, voyez-vous. De plus, elle était la fille d'un directeur commercial. Je n'ai fait que suivre le règlement. Les officiers des opérations spéciales n'ont pas la licence 00. Jean s'autorisa un sourire, qui lui coûta. Il ne cessait d'imaginer cette femme sèche et sans sourcils, tendant le verre fatal à sa mère. « Vous n'avez fait que suivre le règlement, » répéta-t-il. « Oui, ce qui m'a valu les pires réprimandes de la part du commandant Lamiel. » Jean fit semblant de lire un rapport sur son RV, improvisant à voix haute. « Qui a estimé, je cite, « que l'officier Dubreuil a cruellement manqué de discernement et d'initiative et n'a pas su anticiper les conséquences de la situation que présentait le terrain. » « Je reconnais, dit Dubreuil, que les conséquences ont été désastreuses. Ma photo a circulé sur le réseau et la thèse de la mort naturelle n'a pu être établie. L'assassinat de Bronski a fait beaucoup de vagues. Mais, comme je l'ai déjà dit pour ma défense, l'alerte n'a pas été lancée. L'objectif principal de ma mission a été atteint. » Jean hocha la tête d'un air dubitatif. « Nous craignons cependant que vous ne soyez plus apte à ce genre de mission de terrain, qui demande de s'adapter dans l'urgence. » « Peut-être 47 années de service commencent-elles à peser un peu lourd. »« C'est vous qui prenez les décisions, » dit froidement Dubreuil. Jean fit semblant de noter quelques lignes sur son RV. Il se racla la gorge avant de prononcer la phrase qu'il attendait de placer depuis le début de l'entretien. « J'aurai aussi quelques questions sur l'affaire Elisabeth Corville. »« L'affaire Corville ? Elle ne m'a jamais posé de problème, je suis surprise que... » « Nous ne vous faisons aucun reproche, dit Jean. Cette affaire semble cependant liée à des événements plus récents. » Dubreuil, qui s'était un peu refermée sur elle-même, attendit sans rien dire. Jean comprit qu'elle n'allait plus rien dévoiler d'elle-même et qu'il allait falloir lui arracher ses réponses au forceps. « Vous dites que l'affaire Corville ne vous a jamais posé de problème, et c'est en effet ce qui est inscrit dans votre rapport. Cette personne a-t-elle été éliminée selon votre mode opératoire habituel ?»« Oui, cyanure de potassium. » « Combien de temps l'enquête vous a-t-elle pris ?»« Très peu, à vrai dire. Il s'agissait d'une affaire de routine. 6 à 8 semaines en tout. Le temps de l'identifier, de la trouver et de l'éliminer. »« Rien de particulier ?»« Non. » »« Savez-vous que peu de temps après cette affaire, une autre enquête a concerné le propre fils d'Elisabeth Corville, Jean Corville ?»« Oui, l'officier chargé de l'enquête m'avait passé un coup de fil à l'époque, l'officier Letourneau. » Il désirait savoir si Elisabeth Corville possédait un appartement ou un bien familial qui ne serait pas apparu dans l'héritage. Et ? Je l'ai orienté sur une vieille bâtisse abandonnée sur une île de la Seine, mais il m'a confirmé par la suite que cela n'avait rien donné. S'était-il rendu sur place ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Savez-vous à quel moment ? Ce ne pouvait être qu'entre le moment où on lui a confié l'enquête et celui où on la lui a retirée. Jean essayait de cacher sa surprise. Les tourneaux avaient donc visité leur refuge, et cependant ils étaient restés 2 mois là, sans se faire inquiéter. « Je suis surpris par le détail que vous m'apprenez, » dit Jean. « L'officier Les tourneaux n'a jamais mentionné cette partie de l'enquête à ses supérieurs. »« C'est peut-être parce qu'il a été viré le lendemain, » dit Dubreuil d'un air agacé. Jean ne répondit rien, et se réfugia quelques secondes dans la lecture imaginaire d'un dossier. « Pas d'informations particulières sur ce Jean Corville ?»« Non. » À ma connaissance, il ignorait tout des activités de sa mère. Ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Une erreur de jugement de votre part, peut-être ? Dubreuil, les yeux baissés, ne répondit pas. Ce sera tout, officier Dubreuil. Il m'apparaît que, ainsi que le souligne très justement le commandant Lamiel, vous n'avez plus tout à fait les capacités qui ont fait de vous un officier exemplaire pendant 47 ans. Je vais donc devoir vous demander de laisser le terrain à des officiers à l'esprit plus alerte, pendant que vous continuerez à servir des missions moins exposées. Cette décision vous sera notifiée officiellement par votre supérieur direct et prendra effet dans 15 semaines. Vous pouvez disposer. » L'officier Dubreuil, en se levant, tomba sur les citations de Confucius. Elle prit quelques secondes pour les parcourir, puis en lut une à voix haute. « L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. » articula-t-elle avec amertume. La sagesse orientale n'est décidément jamais mise en défaut. Il se trouve que vous n'êtes plus un instrument suffisamment aiguisé, officier Dubreuil. Elle sortit, et Jean entendit Titania lui adresser quelques mots, puis la raccompagner à l'extérieur. Son ami réapparut au bout de quelques secondes, accompagné de Mito. Jean, ça va ? Leur voix semblait provenir d'un autre monde. Jean dut s'asseoir, assailli de sueur froide, le souffle court. Tu as été magistral, dit Mito. Je n'aurais pas fait mieux. La vidéo est parfaite. » Jean arracha sa moustache dans un geste brusque et douloureux qui le sortit de sa torpeur. « Vous pouvez tout remballer sans moi, j'ai besoin de prendre l'air. » Titania et Mito échangèrent un regard et acquiescèrent, puis ils se mirent à s'activer tandis que Jean, chancelant, sortait sur le balcon de l'appartement où le bruit familier de la rue leur asséréna. L'officier Dubreuil se rendrait compte de la supercherie, très rapidement. Peut-être était-elle déjà en train de relever les nombreuses incohérences de la scène qu'elle venait de vivre. Alors elle remonterait ici, il fallait donc vider l'appartement au plus vite. Les parois modulables et les meubles ne pouvaient être emportés. Ils décidèrent de les laisser. Mais ils emportèrent tout le reste. La fenêtre hologramme, l'écran diffusant les phrases de Confucius, le drone, le RV, la caméra de surveillance. « Qu'est-ce qu'on fait de la mue de serpent ?» demanda Mito. « Laisse-la sur le bureau, bien en évidence. Tu crois qu'elle va revenir ? Elle doit déjà être en chemin, si tu veux mon avis. » Lorsque l'officier Dubreuil, essoufflé, essaya d'ouvrir la porte, les prétendus bureaux étaient non seulement totalement silencieux, mais fermés. Son RV était doté d'un système de craquage des codes serrures, et en moins d'une minute, la porte céda. Elle se demanda un instant si elle ne s'était pas trompée d'étage, car le lieu avait radicalement changé. Ses bureaux, qui lui avaient paru pleins de monde et d'activité, n'étaient en réalité qu'un appartement désert, avec de pauvres parois modulables. Comment avait-elle pu être aussi stupide ? Comment avait-elle pu seulement se rendre à cette convocation si suspecte ? En fureur, elle fit le tour des lieux, remarqua la fenêtre du balcon ouverte et se rendit dans le box où elle venait de subir l'une des plus cinglantes humiliations de sa carrière. Il n'y avait plus d'hologramme, plus de commissaire rancière, plus de matériel d'enregistrement, il n'y avait plus rien sur le bureau, hormis un objet. Enroulée sur elle-même à la manière d'une corde, une peau de serpent la narguait. Alvéolée, presque friable, c'était une mue complète qui comprenait même la tête. À l'extrémité, tandis que s'élargissaient les écailles, deux trous ronds, qui paraissaient la regarder, figuraient une espèce de masque. Dubreuil se prit à imaginer l'animal qui avait laissé derrière lui cette enveloppe vide, un être neuf, aux couleurs étincelantes, souple, rapide, insaisissable. Elle poussa alors un cri de rage dont le vain écho lui revint en pleine figure.